prenait le temps. Le temps d'un portrait sans l'image mais avec le son, le temps d'une rencontre avec quelqu'un qui mêle sa vie à l'art. En l'occurrence, c'est la musique qui rythme celle de notre hôte du jour, la musique au sein de laquelle vogue depuis qu'il est ado Yann Bieuzan, directeur de l'association Poc Poc, asso qui porte notamment le festival Les Trois Éléphants, et puis la salle de concert Le 6x4. Bonjour Yann, et merci de nous recevoir ici, dans les locaux du 6x4.
Bonjour, ben avec plaisir.
T'es arrivé ici en janvier 2022, 2 ans, qui ont dû être peut-être les 2 ans les plus étranges de ta carrière.
Bah c'est sûr que si on m'avait dit qu'en 2020, en arrivant, une de mes premières décisions aurait été d'annuler un festival et de fermer un lieu, j'y aurais pas trop cru.
Ouais. Comment t'as vécu cette période-là ? Comment vous avez vécu cette période-là ici, au 6x4 ? Comme tout le monde, entre dans l'hésitation de faire des choses, dans l'hésitation de se réinventer, dans cette obligation de toujours anticiper et puis de revenir sur ses anticipations.
Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu mais un petit peu comme les périodes pour accepter un deuil. On a dû faire le deuil du festival. On a dû faire le deuil de plusieurs programmations de saison. Essayer, comme tu dis, de se réinventer, de pouvoir proposer des choses à différents publics, que ce soit dans les écoles, que ce soit. Donc on a beaucoup jonglé. On s'est pas mal fatigué, escrimé à construire des choses. Après, c'était imprévisible, on l'a vécu aussi au fil de l'eau, comme un petit peu tout le monde, quoi.
Ouais, ouais. Dans le temps présent.
Ouais, c'est ça, sans jamais vraiment savoir de quoi le lendemain allait être fait.
Et depuis quelques mois seulement, vous avez pu reprendre une activité normale. Ici au 6x4, à peu près normal, je te vois tiquer un peu.
Disons que c'est à partir de mi-février où vraiment on peut réaccueillir le public debout. Il y a eu une petite période où le masque était encore obligatoire, mais là depuis un mois vraiment où on est un peu plus libre, on retrouve un semblant de normalité.
Ouais. Et pour toi, c'est les premières finalement, c'est les premiers concerts que tu vis depuis ton arrivée en mode normal, et ça va être aussi ton premier festival des Trois Éléphants en vrai, en fait, puisque...
Exactement, bon, même si j'ai été spectateur des Trois Éléphants pendant plusieurs années en tant que directeur, ouais, c'est le premier, j'ai vraiment hâte, en plus sur une édition très spéciale puisque ce seront les 25 ans du festival, donc en effet, on a hâte, et puis on a hâte de retrouver le public aussi du festival et pour leur puis, enfin voilà de revivre des grands moments de partage. Ouais, c'est essentiel de toute façon.
On est à peu près à 2 mois de la 25e édition des Trois Éléphants. On est dans la dernière ligne droite, tout va bien ? Ça a l'air serein, j'ai l'impression, là. Les bureaux sont calmes, il n'y a pas de...
Ouais, disons que y a quand même un truc où on s'aperçoit 2 ans de...
On a perdu le coup.
Ouais, c'est ça. Il y a des automatismes qui ont été perdus. Il y a un peu de stress qui revient là en se disant on est en retard. Mais non, en fait, on n'est pas en retard.
Ouais,
mais
vous avez plus de références, en fait.
Les références manquent. Et puis,
est-ce que je vais être capable de
ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et en plus, on a pris le parti de changer, d'effectuer des changements, que ce soit en termes d'aménagement de site, en termes de programmation.
Vous avez mis des défis.
Ouais, il y a des petits défis. 25 ans,
obligé.
Fallait fêter l'anniversaire.
On va en reparler de tout ça, justement de ces évolutions. Voilà, le contexte est posé. Nous sommes ensemble pour une heure avec toi, Yann, dans Transistor, l'émission. C'est parti. Thank you.
s'il en est. Même y en a. Yama yama ni alai. Ame bilan, j'y s'il en est. Ibi elle m'en donna. On a qu'il est ma sabouyouma. Douya béténi. Tegele me mogodo la ona ki masabu nyuma dunya vetendi dabe yele la lomino dabe kasi wolonde la dunya vetendi
Burkinabé Victor Démé, un choix musical de notre invité Yann Bieuzan, comme tous ceux d'ailleurs qu'on va écouter durant cette émission. Un petit mot sur cet artiste, je crois qu'il y a une histoire personnelle avec lui, avec ce musicien.
Bah, Victor, ouais, c'est un musicien extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer, voire même de vivre avec lui, puisque quand il était encore vivant et qu'il venait en tournée en France, qu'il avait des jours off dans sa tournée, il venait dormir à la maison, et du coup ouais, on a passé du temps avec lui, avec ses musiciens. En fait, j'étais à l'époque en coloc à Cachan, en région parisienne, et mon coloc était musicien, Simon, il était dans la formation pour
qui
certaines
accompagnait
dates.
Victor Démé sur
ouais,
scène.
Tout à ouais, fait. Ouais. Et du coup, un grand monsieur, vraiment ultra. Ouais, j'ai pas trop les mots, mais
la générosité.
En fait, générosité, humble, c'est quelqu'un qui toute sa vie a vraiment galéré, n'était pas du tout connu pour ce qu'il faisait et a dû se débrouiller et a dû vivre comme ça chichement et du jour au lendemain en fait sur la fin de sa vie finalement il a été reconnu pour l'ensemble de ses chansons et c'est une très très belle histoire de vie et voilà et j'ai une vraie pensée pour lui là aujourd'hui.
Ouais. Ça se passait en région parisienne, c'est à l'époque où tu vivais. dans ce coin-là.
Ouais.
Un coin où tu as grandi, puisque toi, tu es né, on peut le dire, en 1979 à Drancy. Tu as grandi en région parisienne. Est-ce que dans ton environnement familial, dans ton background familial, il y avait déjà des choses qui t'ont emmené vers ce que tu fais aujourd'hui, vers la musique? Est-ce que déjà on écoutait, t'as forgé ta culture musicale à la maison, ou comment dans quel environnement t'as grandi par rapport à ça?
Alors en fait, en effet, on a déménagé avec mes parents quand j'avais 7-8 ans dans une petite bourgade de la région parisienne qui s'appelle Saclay. Donc Saclay, en gros, c'est connu parce que il y a un CEA là-bas.
Un CEA,
un centre d'études atomiques.
D'accord. Ah oui. Tu vois. Okay.
Et en fait, c'était assez étrange parce que on était à 20 minutes de Paris,
ouais,
du centre de Paris, et en même temps on était totalement à la campagne. Ouais. Et du coup j'ai grandi dans un milieu plutôt classe moyenne, ville. C'est pas une ville nouvelle, mais voilà, c'était une vieille ville où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, ouais, qui ont construit des maisons, qui ont, enfin voilà, la ville s'est un petit peu développée, 3000 habitants, et en fait donc un cercle de potes qui se forme, tout le monde se connaissait, c'est un petit peu comme en Mayenne en fait,
il y a un esprit village finalement, en région parisienne.
Peut-être les prémices.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Tout à fait, mais ouais, c'est trop peu connu ça. Donc c'est avec ma bande de potes, on a commencé à écouter de la musique, on a fait des délires à s'enregistrer en train de rapper. Donc là on est dans le milieu des années 90. Et puis voilà, en fait toute l'histoire elle est née de on n'a rien à faire Saclay, en gros, quand t'as pas le permis, c'est tu rentres du lycée le vendredi soir, il y a plus de bus jusqu'au lundi matin pour repartir au lycée, donc le week-end t'es quasiment en autarcie,
ouais,
et du coup tu trouves des choses pour t'occuper,
ouais,
donc tu fais de la musique, et puis à un moment on s'est dit il y a vraiment rien à faire, on va y mettre un peu le bordel là-dedans, et du coup on a été voir le maire, on lui a dit
ça,
rien pour les jeunes.
À peu près quel âge ça, à ce moment-là?
Là, c'était 17-18.
Ok.
Et du coup, c'est assez rigolo parce que le maire était un ancien militaire, donc la jeunesse n'était pas trop son truc. Par contre, le fait que je lui ai envoyé une lettre par la poste avec cousu de faute d'orthographe, a priori.
Mais une démarche officielle.
Et une démarche officielle. Et il nous a dit, OK.
Open bar.
Donc, il nous a fait la première subvention, c'était 18 000 francs. Et avec 18 000 francs, on pouvait organiser...
C'était pas si mal.
Ouais 18 000 francs, ouais, à l'époque, ouais, on pouvait faire des choses. Donc on avait à charge d'organiser 3 concerts par an.
D'accord.
Et c'est de là où est né un petit peu tout ça.
Est-ce que, on va dire que cette époque, les années 90, c'est une époque où beaucoup de jeunes, d'ados... construit leur identité aussi à travers la musique. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce que c'était une manière finalement de se constituer en tant que personne, d'avoir des références musicales qui nous parlaient, est-ce que pour toi ça a été de cet ordre-là, la musique?
En fait, pendant
même
les...
C'était aussi, excuse-moi, je complète, il y avait aussi une fonction sociale presque. On voit que c'est par la musique que tu as rencontré des gens, en tout cas c'est ça qui vous a soudé.
Ouais, c'est ça. Il y avait une fonction sociale et il y avait pour moi aussi une fonction politique. Moi, j'ai grandi en gros avec mes potes. On écoutait beaucoup de métal, beaucoup de hardcore, beaucoup.
Ouais.
Et
on a grandi avec un discours.
Exactement. Ouais. Mm-hmm. On a grandi avec les Lofofora, les One Eye Jack, toute la vague de fusion française.
C'était une façon de se positionner aussi socialement.
En fait, quand on a commencé, c'est ça, on voulait changer le monde. Et c'est en fait, on s'est investi à la base aussi. On a organisé des concerts pour financer des projets de mission humanitaire qu'on a fait par la suite. C'était vraiment, il y avait vraiment une vocation à exprimer des choses. À l'époque, il y avait déjà du business dans la musique, mais il était moins prégnant. Il y avait encore une scène alternative qui était assez forte. C'était encore beaucoup d'artisanat, ça existe toujours aujourd'hui,
sûr,
mais je pense qu'il y a eu, on va dire, une une structuration très importante dans les années 90, bah avec des gens comme, comme moi au final.
Donc t'as été l'artisan.
Et les, tous les 40-50naires sont artisans de cette structuration qui a du bon, qui a du moins bon. Mais voilà, nous, on, en tout cas, la façon dont je me suis engagé là-dedans, c'était, c'était politique. Et puis, de fil en aiguille, les rencontres faisant, bah, je suis devenu manager de groupe, je suis devenu manager tourneur, etc. Et voilà, et bah, je me suis professionnalisé. J'étais très, très investi. Toute ma vie était tournée autour de ça. Je poursuivais des études, si on peut dire ça. j'ai fait 3-4 ans de fac pour... Mais au final, j'allais pas souvent en cours.
C'était pas des études qui étaient dans le milieu art culturel ou musical. C'était des études autour de l'animation jeunesse,
Au tout début, c'était même des études de droit. J'ai fait 2 ans de droit. Après, j'ai fait. Et après, en effet, c'était l'époque des emplois jeunes. Mmh. Et la maison des jeunes de Saclay cherchait un animateur. Du coup, j'ai postulé. J'ai été embauché et en fait, il y avait un accord tacite avec ma chef, Marielle, qui était de, si tu veux développer le projet de Trashy Trasho, c'était le nom de mon asso à l'époque, tu peux aussi le faire un peu sur ton temps de travail, mais via un support d'animation, pour aussi essayer de faire en sorte que les jeunes de cette ville-là s'investissent dans... ne soit pas sur juste de la consommation, mais soit aussi dans le fait de porter, de monter, de porter des projets. Donc voilà, ça a été ça jusqu'à ce que à un moment je me professionnalise vraiment dans le secteur. Mais ça arrive, tu vois, en 2007, c'est ma vraie première expérience professionnelle. Donc entre 98 et 2007, il y a 10 ans, 9 ans. Où finalement je ne faisais que ça bénévolement et puis à côté j'avais un boulot alimentaire. Quoi.
Ouais. 2007, c'est le moment où tu deviens directeur de l'association Alors on le fait.
Ouais.
Association dont tu as été un des initiateurs, d'abord bénévolement.
Ouais.
Le nom, il y a tout dans le nom. Quoi. Alors on le fait, ce serait synonyme du do it yourself. Quoi. Alors on y va. Quoi.
Ouais,
qu'est-ce qu'on attend on y va. Quoi.
C'est exactement ça. En fait, en 2004, j'accompagne le beau-père de ma copine, Natacha, de l'époque, qui est réfugié kosovar en France. Et du coup, il va pour retrouver sa famille. Donc, on part avec sa famille jusqu'au Kosovo. Et voilà, on arrive à bon port, on rencontre des gens et pendant le séjour, on tombe sur un mec qui a mon âge, avec qui on passe une bonne soirée, on boit des coups ensemble et se pose la question, en 98, qu'est-ce que tu faisais ? Moi, en 98, je passais mon bac et toi, j'avais ma calache parce que c'était la guerre chez moi. Et là, tu te rends compte qu'à quelques milliers de kilomètres, ça fait vachement écho à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est qu'à quelques milliers de kilomètres, t'avais une guerre, quoi. Mm-hmm. Et on n'a pas vécu la même enfance, on n'a pas vécu la même adolescence, on va dire. Et donc de cette discussion, il était musicien, de cette discussion, on fait « Ah, ce serait vraiment génial d'organiser un festival au Kosovo, qui était encore un pays quasiment en autarcie, quoi. Il n'y avait personne, qui y allait, mis à part les réfugiés qui retournaient, qui retournaient voir leur famille. Et donc, on a dit « Ok, l'année prochaine, on y va. » Et de retour en France... avec une pote, Colline, on se met en tête de ça. On a trouvé un bus, un vieux bus des années 70. On avait plein de potes musiciens, on leur expose le truc. Tout le monde est partant, tout le monde flippe, mais parce qu'on ne sait pas comment on va faire ça. L'inconnu. Pays qui vient de terminer la guerre. Et du coup, on propose ça aussi, on monte un défi jeune. À l'époque, c'était les subventions pour les jeunes qui ont des projets. Ouais. Et puis, on tombe sur une femme à Jeunesse et Sport qui est Nadia, qui est exceptionnelle, qui nous dit Non mais vous êtes fous de faire ça, mais j'adore. Alors et qui a poussé notre dossier, donc on a eu, c'était le maximum de subventions. On part en gros avec un budget en tout de, en tout et pour tout de 50 000 euros à l'époque.
Ouais.
Faites subvention et puis de, on a même un sponsoring de William Sorin qui nous file plein de bouffe qu'on met sur les galeries du bus et en gros bam on part, on a monté une tournée, on faisait Marseille, l'Italie, après on passait Slovénie, Croatie, et là on part trois semaines dans un bus de 50 personnes avec 50 musiciens, on dort un peu là où on nous fait dormir, on mange du William Sorin et puis voilà, et on arrive au Kosovo, là t'as l'ONU, donc la CAFOR à l'époque, les forces de paix de l'ONU qui nous escortent de la frontière jusqu'à la ville de Petch, de Peia, et il y a les militaires qui montent la scène avec nous, et il y a les habitants qui montent, qui sont là, mais ouais, mais qu'est-ce que vous faites, mais c'est dingue. Et on a deux soirs de festival, mais inoubliables, où il y a 5000 personnes sur la grande place de la ville, 5000 personnes, parce qu'il faut, c'était peut-être pas la moitié de la ville, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Enfin, ça aurait pu partir en couille à n'importe quel moment, mais ça
tout
se
s'est bien
passe
passé,
super
comme dans
bien.
Un rêve.
Et de là, en fait, on fait OK, l'année prochaine, on invite des groupes de
on
tous les pays
pas.
Qu'on a traversés. En plus, c'était symbolique, les Balkans, pays qui. Enfin, l'ex-Yougoslavie qui se rassemble à travers sa jeunesse sur un même projet. Et là, ça, on enregistre un album avec des membres de chaque groupe qui jouent ensemble. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des échanges musicaux avec tous les Balkans. Puis on fait tourner des groupes français dans les Balkans. On fait tourner des groupes des Balkans en France.
Là, c'est la phase où l'association, après cette première expérience fondatrice, va devenir plus structurée, où il va y avoir un salarié ou plusieurs même.
Et on est arrivé à trois salariés. Moi, je faisais le management aussi d'un groupe qui s'appelait Vuneni, qui a signé chez Jaring Effects et qui a fait la tournée d'Ezekiel Hint. Enfin voilà, on arrive sur une association qui est vraiment professionnelle.
Disappear.
Richie Sacramento par les Écossais de Mogwai. On poursuit le fil de ton parcours, Yann, qui en 2012 t'amène à quitter la région parisienne pour Nantes et les Pays de la Loire. Je crois savoir que c'est l'amour, notamment, qui va motiver ce choix.
Ben c'est ça, 2012, bon, ça fait quelques années que j'officie dans AOLF, l'association dont on a parlé juste avant.
Ouais.
Et en effet, je rencontre, alors ça c'est encore une histoire, c'est que en fait avec une pote, ma coloc Sophie, on se fait un pari des années plus tôt. Un jour, on sera tous les deux à Nantes avec nos chéris respectifs.
Ah ouais, c'est marrant.
Et elle trouve un chéri, il s'installe du coup à... au Pouliguen et du coup on la
pas
déménage
loin Nantes,
pas loin de Nantes, ouais. On la déménage et après elle fait sa crémaillère où elle invite la voisine du dessus et la voisine du dessus depuis est devenue ma femme et nous avons deux enfants ensemble et donc bah forcément à un moment je me rapproche,
oui.
Je me rapproche de Géraldine et je me fais embaucher, enfin je deviens animateur du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire.
Alors ce pôle en fait que tu vas intégrer en 2012, est-ce que tu peux nous en expliquer voilà, la raison d'être ? Il y a une vocation forte de fédérer ceux qui font les musiques actuelles en Pays de la Loire, quoi, que ce soit les musiciens, les assos.
Ouais, c'est ça. C'est, en gros, c'est un réseau, c'est un regroupement de structures associatives, municipales, enfin publiques, des entreprises qui ont une activité sur le champ des musiques actuelles, donc écoles de musique, studios de répétition, salles de concert, festivals, collectifs d'artistes, centres de formation. Voilà,
toi, quand tu arrives, c'est le début du pôle, en fait.
Ça a été créé quelques années auparavant, ouais. Mais c'est encore le début de l'histoire.
Ouais. Et à peu près... combien de structures sont représentées ? Enfin, pas oui.
Quand tu es arrivé, il y avait 90 structures. Et voilà, moi j'ai à charge vraiment l'animation de ce réseau. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le gentil organisateur, hein, c'est déjà d'accompagner nos adhérents dans leurs problématiques. Ah, on est en galère financièrement. Ouais. Ah, on doit embaucher quelqu'un. Ah, on doit licencier quelqu'un.
Enfin
voilà, on fait un peu nounou. Enfin voilà, c'est de l'assistance et de l'accompagnement de porteurs de projets. Et puis après, on a des familles, ce qu'on appelle des familles d'acteurs. Donc par exemple, il y a un collège festival dans l'association. Et en fait, c'est comment on fait travailler des festivals ensemble sur des projets de mutualisation, sur des projets de collaboration. Et ça, on fait ça avec chaque famille d'acteurs ou alors par le prisme Mayenne, par exemple départemental. Comment on fait travailler les structures mayennaises ou Loire-Atlantique ensemble. Voilà.
Avec la devise, ça serait l'union fait la force.
L'union,
à la fois,
ouais.
Parce que quand on travaille à plusieurs, on est plus intelligent et puis on a plus de poids.
Et on a plus de poids, et c'est le troisième étage de la fusée du pôle, c'est aussi le lobbying, ou en tout cas l'accompagnement des collectivités vers les politiques publiques, culturelles. On les conseillait, on leur faisait remonter aussi les réalités du terrain, et voilà, et on amorçait la discussion pour que... soit ils orientent différemment leur politique publique, soit qu'ils créent même de nouveaux dispositifs. Donc le pôle est une courroie de transmission entre la base et puis les politiques.
C'est un endroit aussi, toi tu vas apprendre énormément parce que juste, on le voit bien, t'es confronté ou en tout cas t'es en contact avec plein de gens différents dans plein de domaines différents. Et forcément, tu vas te nourrir de toutes ces rencontres-là, de toutes les expertises que tu vas pouvoir croiser.
Bah, c'est sûr que quand j'arrive à Nantes, je vois le gap qui est énorme à franchir parce que tu as à la fois un adhérent qui peut être structure de production et tourneur de groupes vraiment très émergents. Le Hellfest qui pèse déjà à l'époque 10-12 millions d'euros.
Un des plus gros festivals français.
Ouais. Et du coup, ils ont chacun a ses propres problématiques. Donc, faut savoir se mettre à niveau de la structure de tour, du Hellfest. Et puis, après, il y a des problématiques. Enfin, il y a des sujets comme l'environnement, l'écologie. On a monté aussi une campagne qui s'appelle Ici c'est cool sur les violences sexistes, sexuelles et les discriminations. Ben voilà, ça, en fait, on touche un peu à beaucoup de choses. Alors, c'est aussi extrêmement frustrant parce que on n'approfondit jamais vraiment jusqu'au bout les sujets. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant. Et en effet, j'apprends énormément sur la période que j'ai passée au pôle. J'ai appris énormément.
On est dans un moment aussi, et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure aussi, où ce qu'on appelle les musiques actuelles vont se structurer énormément, quoi. Et vont apprendre à exister dans l'espace des politiques publiques, espace dans lequel elles ont été longtemps pas bien représentées ou sous-représentées. C'est aussi tout ce mouvement-là que toi, tu vas accompagner finalement à la fois dans tes débuts en région parisienne et puis à Nantes.
Ouais, c'est ça. Il y a eu la création de tous ces réseaux qui, donc en gros, ce sont des corps intermédiaires, comme on appellerait ça aujourd'hui, et qui en fait sont vraiment là pour faire en sorte que dans le quotidien des structures, en fait, des fois, on nous relève la tête de notre quotidien, qu'on regarde à droite, à gauche ce qui se passe, et puis qu'on puisse s'inspirer, qu'on puisse dialoguer entre pairs. Et en fait, ces structures-là, ces réseaux-là sont extrêmement importants. Pas dans le quotidien, pas dans le faire de tous les jours, mais dans la prise de recul et en fait comment j'oriente mon projet, comment je fais en sorte d'arriver et de continuer à faire ce que je fais, mais de mieux le faire. Et voilà, ça guide en fait et ça oriente et ça permet aussi de se rassurer parce que on n'est pas seul face aux problèmes du quotidien, quoi.
En parallèle de ça, tu vas aussi t'investir, t'es bénévole dans l'âme, dans du management toujours. Tu vas continuer à manager des groupes bénévolement, si je comprends bien.
Bah ouais, ouais.
Idem notamment que t'as accompagné.
Ouais, c'est ça. Bah idem en fait. Région nantaise. Avec AOLF, on avait monté une tournée entre idem et deux autres groupes de dub où on avait fait les Balkans et de là est née en fait une amitié avec les gars. Et quand sort leur dernier album en date, Good Sides of the Rain, ils me demandent de devenir leur manager. Donc voilà, je le fais avec le temps disponible. Donc c'est vraiment de l'artisanat encore là. Puis on monte des tournées dans les Balkans, en France et puis en Afrique du Sud aussi. Enfin voilà, il y a eu des choses. Et puis à un moment, pendant la période du pôle, j'arrête le management parce que je vois bien que j'ai plus assez de temps.
Une voie que tu aurais pu creuser ? Parce qu'on sent que depuis le début, tu as eu ça.
En train de
contact avec les artistes, ce travail en direct avec... avec des musiciens, on sent que c'est quelque chose d'important pour toi.
Ouais, j'aime ça, mais j'aime aussi le. En fait, moi, j'aime bien m'investir pour un territoire. En fait. Et tu vois, c'est donc mon expérience bénévole pendant le pôle, ça a été de m'investir sur l'association des escales
à Saint-Nazaire,
qui est l'équivalent du 6x4, 3e, enfin de POC-POC.
Festival des escales et la salle de concert, le VIP.
Voilà, donc une SMAC, un festival et du coup un projet de territoire. Et au final, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus parce que, en fait, mon engagement dans la musique, c'est je veux changer le monde. Et en fait, j'ai envie de participer au mieux vivre ensemble. Et c'est pourquoi.
T'as plus
un
de
moment...
prise en travaillant dans une salle comme ici. On arrive à ton arrivée ici en 2020, ouais. Où justement t'as plus de prise, effectivement, c'est moins 20, quoi. Tu peux travailler sur un territoire, en tout cas, changer le monde, déjà changer autour de soi.
Bah, c'est ça.
Et
ouais.
C'est plus facile quand tu travailles dans un lieu comme ça que avec un groupe, finalement, dont tu vas gérer les destinées, mais c'est que les destinées individuelles des musiciens et de ce groupe, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est des destinées individuelles. Et puis en effet. Professionnellement, avec le pôle, j'avais beaucoup de recul, mais à un moment, j'étais pas les mains dans le cambouis.
C'est ça, t'étais un peu loin de l'action.
J'étais loin de l'action.
T'accompagnais l'action.
Et l'action, je l'avais juste en étant investi aux escales.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à un moment, c'est un parcours de vie, c'est des choix qu'on fait. Et quand on m'a parlé du poste de direction de Poc Poc, du 6 par 4 et tout, j'avais déjà une vraie affection pour la Mayenne, dans le sens où pendant mes années au pôle, à chaque fois que je venais en Mayenne, je trouvais la dynamique exemplaire, je trouvais qu'il y avait je sais pas si c'est une osmose, mais il y avait en tout cas vraiment quelque chose de singulier, un esprit vraiment... de proximité et du coup c'est ce qui a un peu fait pencher la balance, même si je ne le répéterai jamais
assez, je crois savoir Mayenne, de quoi tu vas parler,
il n'y a pas la mer et on habitait à Saint-Nazaire en proximité de la mer,
c'est vrai que
aujourd'hui c'est ce qui nous manque le plus.
Ça va être dur, ça, à faire changer.
C'est vrai que la ramener jusqu'ici, ça peut prendre quelques centaines d'années. Ouais.
En fait, tu as un job aujourd'hui effectivement où tu es au cœur de l'action, et en même temps, il faut le dire, un directeur d'une structure comme le 6x4 et Poc Poc qui gère les 3 éléphants, c'est pas non plus, c'est pas toi qui fais la programmation. Il y a aussi un volet administratif, management, RH, financier, des choses aussi de bureau, quoi, beaucoup en fait.
Oui, c'est sûr qu'il y a.
Un travail de directeur, c'est ça aussi.
Alors, c'est sûr que mon quotidien, on va dire que c'est 70% de coordination, management et administratif.
Quand on a une belle équipe comme la tienne, c'est.
Ça se fait assez bien parce que justement, comme tu dis, l'équipe est top. Après, il y a 20% de travail, on va dire, politique, partenarial. Et puis après, il y a quand même les 10% les plus passionnants qui sont la projection du projet dans les 5-10 prochaines années. Et ça, c'est génial.
T'es devenu papa, la vie a changé pour toujours. Mes erreurs ne se voient pas, je les ai semées sur mon parcours. Dans mon malheur, y'a de la joie, quand je revois tous nos fous rires. Je pense à mon frérot sans cas, pour le meilleur et pour le pire. J'ai plus d'amis au cœur plat que j'imagine en train de souffrir. On m'a dit le monde est à toi, mais qu'est-ce que j'ai à offrir. Je marche dans la ville sans portable, demain matin je réapparais. Je compte mes pas, tu meurs instable, quand l'insomnie me court après. Un pas en avant et deux en arrière. Je me mets seul mes barrières, je vais pourtant seulement dans l'instant présent.
Le diable appelle sur mon 06 quand la lune est full. Les cas s'allument comme dans Billie Jean. Désolé maman, demain je n'irai pas à la school. Je fais le tour du monde comme Zinedine. J'ai passé la plupart du temps dans le froid avec mes partenaires. Le sang du cap, j'écoute dans mes artères. Les anges m'appellent sur mon 06 quand la lune est full. Les cas s'allument comme dans Billie Jean.
Mon frère dans les études me parle d'une vie que je connais pas. Je me rends compte à quel point c'est dur de s'accrocher comme ça. Au fond, si j'écoute mon cœur, qui peut m'éloigner de mes rêves? Est-ce que je suis à la hauteur pour me permettre de viser le ciel? Je vois le soleil à travers mes stores, encore une nuit trop compliquée. Une ex qui m'appelle encore, les mêmes défauts à me reprocher. Je suis vers Jaurès et Stalingrad, j'attends un pote encore en retard. Dur de juger le bien et le mal, c'est comme de définir l'art. Un pas en avant et deux en arrière. Je me mets seul mes barrières, je vais pourtant seulement dans l'instant présent.
Le
dame appelle sur mon 06 quand la lune est full. Les cas sables comme ton Bélitine. Désolé maman, demain je n'irai pas à la school. J'fais le tour du monde comme Zinedine. J'ai passé la plupart du temps dans le froid avec mes partenaires. Le sang du quartier coule dans mes artères. Les anges m'appellent sur mon 06 quand la lune est full. Les cas sables comme ton Bélitine. Le diable m'appelle sur mon 06 quand la lune est full. Les cas s'allument comme ton Billie Jean. Désolé maman, demain je n'irai pas à la school. J'fais le tour du monde comme Zinedine. J'ai passé la plupart du temps dans le froid avec mes partenaires. Le sang du quartier coule dans mes artères. Les anges m'appellent sur mon 06 quand la lune est full. Les cas s'allument comme ton Billie Jean.
Retour au 6x4, dans le jargon culturel, on dit que la salle de concert que tu diriges, Yann, est une SMAC. Ça veut dire quoi, SMAC ?
Bah, au-delà de l'acronyme pour dire bisous.
c'est ça, ce n'est pas que ça.
Non, c'est une scène de musique actuelle. Donc, une scène de musique actuelle, c'est en fait une appellation qui a été donnée par l'État, par le ministère de la Culture, voilà. En fait, dans les politiques de l'État, en direction de la culture, ils ont à un moment choisi des lieux qui avaient des lieux culturels, qui avaient des esthétiques, qui avaient des choses comme ça, ils les ont labellisés. Ça veut dire qu'à un moment, ils disent « tel lieu, je reconnais son travail et je lui donne des moyens pour faire encore mieux. » Et il y a une dizaine de labels, je crois, de l'État. Et donc, les SMAC en sont un. En gros, il y a une SMAC par département.
D'accord.
Donc, environ, parce qu'il y a quelques départements où il n'y en a peut-être pas encore, mais on va dire qu'il y a entre 90 et 100 SMAC en France.
Ouais. C'est des sous que vous donne l'État qui garantit...
Pas assez, mais c'est des sous.
Et en face des sous, il y a, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme obligation, mais en tout cas des missions.
Il y a un cahier des charges.
Voilà,
ouais.
Qui vous sont aussi demandées, dont la première, évidemment, est celle de la diffusion, de l'organisation de concerts. Ici, on est sur une salle qui programme presque 60 concerts par an, qui accueille à peu près 90 groupes artistes par an, qui accueille 9000 spectateurs sur sa saison de concerts. C'est énorme, en fait, pour une petite salle, pour une petite ville, pour une petite équipe.
Bah ouais, c'est vrai qu'on a une activité qui est bien remplie. Donc oui, l'organisation de concerts, donc ce qu'on appelle diffusion dans notre jargon, mais attention, diffusion de musique de création. Et on a dans notre cahier des charges cette obligation d'aller sur des groupes émergents, donc pas forcément ce qui passe sur les plus grosses radios, qu'elles soient commerciales ou de service public, mais plus des artistes qui vont être en devenir.
Ouais.
Orelsan, aujourd'hui, il passe dans des énormes festivals. Il est venu au 6x4 il y a 10 ans,
ouais.
Quand personne ne le connaissait.
Il y avait du monde quand même déjà.
Tout le monde le décriait. Ouais, il y avait du monde parce qu'il y a quand même à Laval
déjà un public,
et dans les villes, il y a quand même des gens qui aiment la musique et qui découvrent la musique et qui suivent l'actu. Mais donc voilà. Après, le truc, c'est que on va dire que c'est la partie immergée de l'iceberg.
Ouais.
Après, il y a tout ce qui est en dessous et qui n'est pas forcément visible.
Mais même l'organisation de concerts, elle n'est pas forcément... il ne s'agit pas juste d'ouvrir une porte.
Il y a tout un travail, en effet, de programmation. Il y a une ligne artistique qui est derrière. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que le projet du 6x4, c'est à la fois une vision artistique. Comment la ligne artistique du 6x4.
Si on regarde la programmation, par exemple, je sais pas, des quelques jours qui sont passés et qui arrivent, on a eu du hip-hop avec Ichon, on a Fishback qui était là hier, bientôt il y aura le rock velu de Hitit Anita, enfin voilà, c'est large.
On touche beaucoup d'esthétique, mais parce qu'à un moment, la population lavalloise et la population en règle générale dans notre pays, il est très divers, avec un background différent, avec des goûts différents, et à un moment on ne peut pas se dire qu'on va s'adresser qu'à une frange de la population. Donc on a cette diversité.
Et on sait même que la diversité des goûts, elle est à l'intérieur même d'une seule personne qui va pouvoir aimer du rap comme du métal.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais ceci dit, après, il y a aussi des personnes qui sont plus plus sensibles à certaines esthétiques que d'autres. Et donc le projet du 6x4, c'est de s'adresser au plus grand nombre, mais toujours dans la volonté de proposer des choses de qualité qui ne passent pas partout. Et aujourd'hui, nos grandes lignes de conduite, ça va être de représenter aussi la diversité, que ce soit dans les esthétiques, mais aussi dans les personnes. On parle beaucoup de l'égalité des genres, hommes-femmes,
donc
tout ça.
Donc ça, c'est une ligne pour vous, se dire, attention, là, on a programmé beaucoup d'artistes masculins sur la dernière saison. Attention, il faut rééquilibrer.
Non, ça ne se fait pas comme ça, vraiment. On est sur une attention a priori.
Il n'y a pas des calculs avec des tableaux.
on n'est pas à faire du quota. Par contre, ce qu'on a envie avec Perrine, c'est de
Perrine Deltaï, donc qui est la programmatrice, directrice artistique.
Tout à fait. C'est de proposer de construire un matrimoine aussi dans les musiques actuelles, parce qu'aujourd'hui il y a un patrimoine dans les musiques actuelles, mais il n'y a pas de matrimoine. Il y a quand même ça à construire. On va
pas
le faire tout seul, donc on veut être acteur de ça, mais aussi il y a toutes les mouvements discriminatoires aussi qui existent dans la société, et ça, on veut aussi proposer une pluralité de points de vue. Le grand chapitre diversité qui nous anime. Et puis après, on a aussi envie de témoigner de l'histoire des musiques actuelles. Donc quand on a Brigitte Fontaine, qui est une personne, je sais plus, elle a 80 et quelques années.
Il s'agit pas de faire que de l'émergence à tout craint, quoi.
Non, c'est aussi de rappeler que les musiques qu'on écoute aujourd'hui, elles existent depuis 70 ans, voire 80, voire plus pour certaines esthétiques, et que c'est une évolution, et c'est aussi de témoigner de cette histoire. Que c'est une des missions du 6x4.
Ce qui vous je sais pas si ça vous contraint, mais en tout cas ce qui vous guide aussi, c'est la taille de la salle, qui fait 330 places, si je me trompe pas.
Oui, 300, c'est ça, 300,
et qui forcément mathématiquement ne peut pas vous permettre de programmer des artistes, on va dire des gros artistes qui coûtent cher, parce que on sait bien qu'il y a des logiques d'équilibre économique qui font qu'à un moment, ce qui va permettre d'accueillir un artiste, c'est aussi les entrées qu'on va générer et qui vont permettre d'équilibrer un temps soit un peu le budget. Vous êtes dans ces contraintes là, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Et ça vous limite peut-être aussi dans ce que vous pouvez proposer.
Économiquement, on peut pas accueillir plus de 300, en gros 300, parce que 330 c'est avec le les musiciens, le staff inclus, donc voilà, 300 personnes. Il y a cet aspect économique, et puis après il y a l'aspect technique où notre plateau, la scène fait 6 mètres par 8, il y a une hauteur sous plafond qui n'est pas énorme, et du coup il y a des spectacles qui arrivent avec de la scénographie, qui arrivent avec des besoins en espace plus importants que nos capacités d'accueil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est rentré en réflexion avec l'agglo de Laval pour penser à un futur 6x4 à échéance fin mandat, début du prochain mandat, parce que aujourd'hui on peine, en fait, on peine, et ce serait dommage qu'il n'y ait plus de salle de concert à terme à Laval.
Certes, tu as commencé à l'amorcer tout à l'heure en disant que vous ne faisiez pas que des concerts. Il y a aussi un volet fort de ce qu'on appelle l'action culturelle, et aussi d'accompagnement de la scène musicale, artistique, locale.
Ça fait partie aussi du cahier des charges, et puis des choses qu'on a en plus envie de développer. Donc l'action culturelle, c'est toutes les actions de sensibilisation qu'on peut faire auprès des écoliers, enfin des scolaires, ouais. Des collégiens, des lycéens, c'est des concerts en prison, c'est des ateliers participatifs en EHPAD, à l'hôpital, enfin voilà, c'est aussi, alors j'aime pas trop apporter à des publics éloignés, c'est l'image
simplement
pas...
c'est sortir aussi du cadre ici du 6 par 4 et d'aller vers, 6
par 4, d'aller vers les gens. De créer des rencontres, en fait, parce qu'il y a aussi des personnes qui physiquement n'ont pas accès, qui parce que elles sont dans une situation qui les éloigne de ça, et du coup créer cette rencontre, elle est super importante. Donc il y a ce volet action culturelle qui nous tient énormément à cœur, et puis après l'aspect accompagnement, c'est aussi on a énormément de musiciens sur le territoire. À un moment, ils répètent soit dans des studios de répète, soit dans leur garage. Et nous, on leur permet de s'épanouir un peu plus en leur donnant accès à des conditions professionnelles de sur scène. Et voilà. Et on accompagne entre guillemets la carrière des groupes. Alors il y en a, la carrière, elle est juste juste l'envie de jouer ensemble, mais de mieux jouer ensemble,
sur des pratiques de plaisir,
tout à fait. Et d'autres qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans le cheminement, et là du coup on les accompagne aussi un peu plus loin, et puis on essaye de créer des synergies, que ce soit avec le conservatoire, avec Mayenne Culture, avec les autres studios de répétition de la Mayenne, via le dispositif qu'on a appelé 5-3, en fait, où c'est vraiment des ateliers, des concerts de valorisation, une scène sur les trois éléphants, aussi des concerts au transmusical. Enfin voilà, on essaye aussi de mettre en valeur ce qui se passe en Mayenne, de montrer que c'est un territoire qui est aussi vivace en termes musicaux.
Vous êtes aujourd'hui 10, si j'ai bien compté, au sein de la structure.
Tout à fait.
10 pour faire tout ce qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour porter un festival qui est un festival important, qui est un festival voilà, qui réunit beaucoup d'artistes, on va en parler, qui est Les Trois Éléphants, un festival qui a existé avant la création du 6 par 4 en 2008.
Depuis 98, ouais. Il existe, ouais.
Voilà, et 10 ans avant l'arrivée ici, il existait à La Celle-les-Château, puis l'équipe qui portait ce festival est arrivée à Laval, à porter finalement la structure 6x4 et à garder le festival ici qui s'est implanté à Laval, avec une ligne finalement qui n'a pas tant bougé, qui était déjà en 98, puis toutes les années qui ont suivi, de défendre une programmation défricheuse, de pas être sur les copier-coller des programmations entre guillemets qu'on peut un peu voir partout, d'artistes qui font qui trustent tous les festivals, d'aller sur de l'émergence, d'aller sur de la diversité, voilà. Et donc cette ligne là j'ai l'impression que vous la poursuivez, vous la cultivez.
C'est notre fierté, c'est notre fierté, parce que aujourd'hui les Trois Éléphants, c'est quand même l'endroit où tu vois les artistes de demain, et les artistes qui ont quelque chose à dire, et les artistes qui sont dans une créativité folle. Et là, cette année, l'affiche, ouais, c'est pareil. Quand on a des Mara, des Kalika, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas encore vraiment connus.
Et qui ont tout pour l'être.
Ouais. Et alors, ça vaut ce que ça vaut, mais dans le milieu professionnel, c'est vrai que les Trois Éléphants sont reconnus comme, avec le Printemps de Bourges, la porte d'entrée de la saison festivalière. Parce que c'est là où on va voir des artistes qui vont éclore la saison d'après. Donc il y a quand même des professionnels qui aiment venir ici parce que ils verront des choses qu'ils ne verront pas ailleurs. Et puis après, on essaye d'avoir cet état d'esprit très familial, très, très, très proche. Un festival de proximité, on n'a pas envie de devenir un gros festival comme il peut en exister ailleurs. Et cette proximité avec les gens, on aime la garder.
Ouais, donc ça reste des espaces de 3 000 à 4 000 personnes.
C'est ça, on est sur une jauge à 6 000 personnes.
6 000 personnes, ouais, avec deux scènes. Enfin bon, voilà, on n'est jamais très très loin de la scène et des artistes quand on est aux Trois Éléphants, quoi.
Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Là, en plus, cette année, on étend un petit peu le site pour ceux qui connaissent. On est sur, enfin, pour ceux qui connaissent pas plutôt, on est sur une grande place au centre de Laval avec une scène. Intérieur, une scène extérieure, ça c'est une grosse nouveauté, c'est que la scène extérieure va devenir la scène principale. Et après, on a aussi un autre espace qui est dans un jardin, en fait, le jardin de la Périne. Et là, il y a la troisième scène qui va prendre place dans le jardin de la Périne, là où avant elle était sur la même place que les deux autres scènes. Donc on étend un petit peu le site. Et on va proposer aussi des nouveautés, on réaménage un petit peu l'espace.
Les Anglais de Squid qui joueront le 22 mai ici au 6x4 pour la soirée de clôture de la 25e édition des Trois Éléphants, pardon. Un festival qui va démarrer le mercredi 18 mai et qui va aligner, alors j'ai, c'est gros, voilà, j'ai fait un prix de gros, c'est grosso modo une centaine, j'ai l'impression, ça, en tout cas c'est volumineux, là. J'ai regardé la programmation pour préparer cette émission, c'est waouh, wow, vous avez mis le paquet entre guillemets.
Bah, il y avait beaucoup de projets, ça fait quand même 2 ans qu'on ronge et notre frein, mais oui, il y avait cette volonté de densifier, ça fait déjà depuis 2019 que le festival démarre le mercredi.
Ouais.
Alors avec ça démarrait dans les bars.
Voilà, c'est ça. Dans des lieux qui ne sont pas les lieux habituels du festival, les lieux centraux du festival.
En fait, aujourd'hui, il y a quand même un réseau de bars qui est très vivace et qui aura vraiment envie de faire les choses. Donc, on adore travailler avec eux. Une des nouveautés, c'est que dès le mercredi 18h, il y aura le coup d'envoi du festival avec de l'art de rue. Sur la place de la Trémoille, une volonté de faire la plus grande photo publique au monde. Donc,
j'adore le mot coup d'envoi, je trouve c'est hyper bien.
Bah ouais, ouais. Comme au foot en fait, ouais. Ça part, on se fait la première échange, la première passe et après c'est parti pour 5 jours.
Ouais.
Donc voilà, de l'art de rue qui commence dès le mercredi 18h, les bars en soirée. Donc ça, c'est le lancement, mercredi, jeudi, et puis vendredi, vendredi, samedi, les deux grosses journées musique sur site payant. Samedi, dimanche, les deux grosses journées art de rue gratuit un peu partout sur Laval.
Bien rappeler que les Trois Éléphants, c'est une programmation musicale, mais c'est aussi
une programmation
très riche d'art de rue que vous co-organisez avec
la ville de Laval. Ouais. Et c'est en effet un festival pluridisciplinaire, mais depuis le début, même quand c'était à la Salle des Châteaux,
il y a toujours eu
cet ADN art de rue et musique. Et je rajouterais le troisième pilier, je voulais y arriver, c'est aussi la déco, les arts visuels.
Qui sont là depuis le départ aussi. Qui sont le marqueur de l'identité du festival.
Tout à fait.
Vraiment,
ouais. Et là, cette année, pour les 25 ans, on exacerbe, entre guillemets, la chose, puisque dès le 12 avril, il va y avoir des œuvres d'art contemporain qui vont être exposées sur la place du 11 novembre.
D'accord, ça commence très tôt.
Ça commence très tôt. En fait, c'est un petit clin d'œil sur l'avenir de la place du 11 novembre, puisqu'on fait venir des œuvres de Lilian Bourgeat, qui est un artiste dijonnais qui réalise des objets du quotidien, enfin du quotidien, du quotidien.
Ouais, surdimensionné, des objets banals en fait.
Exactement.
Une paire de bottes, un plot de travaux.
Là, ce sera lié, en fait, il y aura un plot de chantier, il y aura des barrières Vauban, donc qui seront un petit peu le symbole de la période qui s'ouvre pour cette place de travaux.
Super.
Et puis un banc aussi qui sera un grand banc qui sera très très haut, qui symbolisera lui le devenir de cette place, qui sera un lieu où on se pose, un lieu où on se rencontre, un lieu où où on peut prendre le temps. Et après il y aura aussi avec le Manas une exposition qui part début mai autour des œuvres pliées du collectif CRIMP, qui est le centre de recherche internationale autour de la modélisation par le pli.
Waouh, bravo. Donc ça se passe au Manas, le musée d'art naïf.
Et voilà. Ça sera au Manas de mi-mai, enfin du 15 mai il me semble, jusqu'à début septembre. Donc voilà, on aura toujours on a voulu amplifier ce côté art visuel, aspect déco. On travaille toujours avec nos collectifs déco sur le site. Donc voilà. Et puis autre nouveauté, c'est que habituellement le festival se termine le dimanche après-midi avec de la rue, et là on terminera en musique au 6x4 pour aussi faire le lien entre les Trois Éléphants et le 6x4, avec un concert absolument phénoménal et avec les Anglais de Squid qui sont une révélation.
L'album est
énormissime.
Ouais, c'est vrai que je pense sur scène ça va vu déjà l'énergie qui se dégage de l'enregistrement, je pense que ça va être assez fou.
Ouais, je pense que ça va être un gros gros moment de rock, et pour terminer le festival, on pouvait pas rêver mieux.
Ouais, c'est top. Bravo. Il y a aussi des têtes d'affiche quand même. Vous gardez aussi, bien sûr, on a besoin aussi de noms qui vont.
Qui fédèrent, ouais.
Voilà. Donc il y a Juliette Armanet, il y a Lelo, voilà. Il y a aussi quelques noms voilà, qu'on entend, d'artistes qu'on entend à la radio, entre guillemets.
Ouais, bah, ouais. Y a toujours eu un petit peu cet ADN de d'être aussi un projet fédérateur pour les Lavalloises et les Lavallois. Mmh. On ne peut pas faire que de la découverte. On amène toujours de. En fait, les gens découvrent des choses qui ne passent pas parce qu'à un moment, ils ont été, ils sont venus parce qu'ils avaient envie de voir Lelo ou Juliette Armanet. Et en effet, c'est deux artistes, ou Vitalik qui fête ses 20 ans, ou Diziz, c'est des noms qui parlent, qui font que les gens viennent. Et après, en fait, très souvent, les gens voient 3-4 concerts et ils se disent « Ah ouais, mais c'était fou !» Et quelques mois après, ils entendent ça à la radio et, et c'est, ils
J'ai
streament
vu avant.
Ça. Et en fait, c'est ça qui est fou. On peut reprendre... Il y a plein d'artistes, les Christine and the Queen, les Jana Dead, qui sont passés avant que... Ou les Jane qui sont passés quand ça a décollé. Et en fait, il y a toujours ça. Donc oui, il y a des têtes d'affiche qu'on est extrêmement content d'accueillir, qui sont de qualité en plus. Donc c'est vraiment chouette. Lelo, c'est quand même vraiment quelque chose de fou qui vienne à Laval. Il a quand même rempli deux Bercy en l'espace de 20 minutes. C'est du jamais vu pour un artiste indépendant.
Construit en dehors des médias aussi.
Totalement en dehors des médias.
Incroyable ce réseau qui va tisser, lui.
Et les Trois Éléphants sont un des 10 festivals de l'été.
C'est quoi, il vous fait une fleur? Il a repéré le festival ou c'est,
non,
son, per... c'est son tourneur à retourner
Perrine a réussi à des bonnes relations avec les tourneurs, avait repéré Lelo depuis longtemps. Ouais. Et voilà, c'est aussi une relation de confiance qu'on a avec le secteur professionnel.
Bravo en tout cas. Et merci.
On est content.
Merci pour ton accueil, pour cet échange. Merci à Joël qui assure avec talent la réalisation de cette émission. Prochain rendez-vous pour nous le 12 mai pour une émission live au Théâtre des Ursulines à Château-Gontier. On retrouvera sur scène Gibraltar, Bleugras et Ferdinand. D'ici là, bien sûr, faites de beaux rêves.